Qu'est-ce que l'homme ? Grande question que ces derniers se posent depuis la nuit des temps. Une question qui en entraîne une autre, plus personnelle. Qui suis-je ? Des questions pour lesquelles l'Église propose une réponse, ou du moins un chemin afin de trouver une réponse. Pour nous présenter ce chemin, le père Étienne Grieux, jésuite enseignant au Centre Sèvres à Paris et auteur d'une thèse de théologie intitulée « Né de Dieu ». Il nous livre aujourd'hui sa vision de l'identité en partant de la Bible.
Dans la Bible, on voit souvent des personnes dont l'identité change, au moins le nom change. C'est le cas par exemple pour Abraham. Au début, il s'appelle Abraham, et puis dans la suite de l'histoire, son nom devient Abraham. Il me semble que ça dit quelque chose de très important sur ce qui constitue l'identité d'un croyant. D'après la Bible, elle advient dans la relation à Dieu, et notamment dans une relation d'appel. C'est en étant appelé et en s'engageant en réponse à cet appel que l'on découvre qui l'on est. Pour l'Église, l'identité de la personne, elle repose ultimement sur le fait que cette personne est appelée à l'existence, à la vie par Dieu. Et c'est ça qui la rend intouchable ou presque sacrée. C'est-à-dire que personne ne peut s'autoriser à contredire ou à contrecarrer cet appel qui vient de Dieu ultimement.
Un appel qui renvoie donc à une forme d'altérité. C'est en effet face à Dieu et face aux autres que l'identité de la personne se forge progressivement.
Je crois que ce sera important que la personne accepte de concevoir que son identité, ce n'est pas elle qui l'a façonnée. Et on peut dire aussi au niveau social que nous acceptions que l'identité des personnes n'est pas fixée par le jeu de rapports que nous avons entre nous uniquement. Il y a quelque chose qui dépasse cela, qui est de l'ordre de l'altérité et qui est à respecter. Alors disons, une personne pourra reconnaître cela dans la mesure où elle se refusera finalement à pouvoir dire le dernier mot sur qui elle est elle-même. D'une certaine manière, un croyant laisse la question de son identité à un autre. Il la remet entre les mains de Dieu qui l'a appelé. Ça, à mon avis, ça donne beaucoup de liberté dans la manière de se rapporter à soi-même. Ça fait qu'on n'est pas à l'étroit, mais que dans la relation de soi à soi, il y a comme une respiration, il y a un autre qui intervient, qui est Dieu lui-même.
Laisser Dieu et les autres façonner son identité, ce n'est donc pas démissionner de cette recherche personnelle. Mais cela implique, bien au contraire, de devenir soi-même capable d'aider les autres à découvrir qui ils sont. Car dans la relation à autrui, on apprend également à se connaître et on discerne comment Dieu nous appelle. Mais finalement, peut-on ainsi savoir qui l'on est vraiment ou bien notre identité personnelle reste-t-elle toujours partielle ? Le père Grieux donne son point de vue et déplace le débat.
Pour un croyant, je pense que la question de son identité ne sera jamais définitivement fixée. Disons, il n'y aura pas de connaissance totale sur qui il est avant qu'il paraisse face à Dieu. C'est-à-dire avant qu'il soit passé par la mort et la résurrection. Et ça veut dire que la question de l'identité, en fait, c'est aussi la question du salut. On pourrait dire que c'est une manière moderne de poser la question du salut. Qui je suis continuera de m'échapper tant que je ne suis pas devant Dieu. Et m'en remettre à Dieu pour savoir qui je suis, c'est accepter d'être sauvé par lui. C'est accepter que, disons, qui je suis ne repose pas en moi-même, ne soit pas le fruit de mon propre labeur, mais que ça repose entièrement en Dieu. Pour Jésus, il y a eu aussi quelque chose comme cela. Mais en même temps, Jésus, lui, avait une conscience beaucoup plus vive que nous d'un rapport filial à son Père. Alors en ce sens-là, la question de son identité lui était sans doute plus claire, ou du moins, la question de l'importance pour son identité du rapport à son Père était beaucoup plus claire pour lui. Alors que nous, très souvent, nous avons tendance à vouloir gérer la question de notre identité tout seul.
L'identité d'une personne se laisse donc découvrir dans la rencontre avec l'autre et en lien avec Dieu. Mais l'homme est aussi un être qui vit en société, avec ses groupes, ses affinités, ses appels propres. Il existe donc une transaction entre l'individu et ses différents groupes qui constituent la société.
Un groupe peut aider une personne à découvrir son identité dans la mesure où elle peut l'aider à entendre les appels de Dieu. Cela dit, je ne crois pas qu'un groupe vienne donner une identité toute faite à une personne. Dans ce cas-là, ça serait une manière très réductrice de faire jouer la question de l'identité. En ce qui concerne le groupe Église, son identité est aussi inscrite dans un jeu relationnel avec Dieu. C'est-à-dire que l'identité de l'Église n'est pas à concevoir comme une sorte de patrimoine ou de trésor que nous aurions à défendre ou à promouvoir, mais c'est avant tout une relation vivante à Dieu.
Chercher à définir son identité, c'est parfois très délicat, surtout quand on est en situation d'échec. Pourtant, le père Grieux ne veut pas être défaitiste. Pour lui, l'Église, comme les personnes proches, ont un rôle fort à jouer auprès des personnes blessées par la vie.
Qu'est-ce qui se passe dans une situation d'échec? Les images auxquelles nous pouvions rattacher notre identité, qui sont souvent des images de réussite, de reconnaissance, de succès, ces images-là s'effondrent. Alors évidemment, c'est toujours une épreuve très grande. Mais en même temps, on peut dire que ça peut être aussi une occasion de vérité, c'est-à-dire de découvrir que justement, notre véritable identité ne pouvait pas s'identifier à ces images qui avaient toujours quelque chose de réducteur ou de fixe. Dans cette perspective, la qualité des relations jouera un rôle très important. C'est-à-dire quand on a des relations vraies, des relations où on ne cherche pas justement à promouvoir une image ou bien à dominer sur l'autre en imposant quelque chose de plus fort que lui, etc. Quand on a une relation vraie, dans laquelle on vit quelque chose, on s'appelle mutuellement à l'existence. Ça, c'est une relation vraie, il me semble. Quand on vit des relations comme cela, eh bien, à ce moment-là, ça nous aide beaucoup pour vivre une identité sur un mode dynamique.
L'Église, comme la nature humaine elle-même, pousse donc l'homme à vivre sa relation à Dieu de manière vivante, dynamique, ouverte, loin des stéréotypes que la société rabâche sans cesse. En ce sens, cette communauté de croyants ne se veut surtout pas fermée ou communautariste.
Le communautarisme, c'est-à-dire une espèce de peur qui nous fait nous replier sur nous-mêmes, risque de nous entraîner dans un rapport faux à notre propre identité. Parce que ça va nous fermer à tout ce qui serait des appels de Dieu qui peuvent passer par d'autres qui peuvent être bien entendu en dehors de notre communauté. Et ceux-là ont des choses à nous dire. Et par cela, quelque chose peut nous être révélé de notre véritable identité. Alors quand une communauté se replie sur elle-même, elle se rend sourde à ce genre d'appel, et du coup, elle risque de se fixer sur certaines images d'elle-même et à appauvrir considérablement ce qui est sa véritable identité, qui, elle, repose dans une relation vivante à Dieu.